I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu te souviens, Simon, la promesse qu'on s'était faite quand on s'est mariés? On s'était dit qu'on passerait toute notre vie ensemble, quoi qu'il arrive. C'était juste notre pacte. Trouver des solutions, ensemble et toujours.
Je demande juste d'habiller le petit 5 secondes pour me donner un coup de main, c'est si grave en fait.
Tu parles d'une organisation, hein.
Ouvre-nous la porte, toi, au lieu de nous faire chier.
T'as oublié le biberon.
Là, tout part en vrille, hein. Non, moi, je vous jure, je vais pas tenir longtemps à ce rythme-là.
C'est quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi c'est autant la merde?
Oh, tu peux dire à ton fils qu'on est pas sur un terrain de foot aussi?
Maintenant. Mon chérie, ça va? Mais t'as vu
comment
ta gueule?
Comment c'est possible de pas laisser d'espace aux dents comme ça?
T'as une hostilité de ouf.
C'est plus possible qu'on se parle comme ça.
Je crois que j'ai peut-être une solution.
À l'occasion de la sortie en salle de la nouvelle comédie de Ilan Klipper, Le processus de paix, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Camille Chamou, qui a coécrit le film et joue le rôle principal. Mais avant de vous laisser écouter l'interview, parlons un peu du long métrage. Le processus de paix est une comédie sur l'histoire d'un couple de jeunes parents qui s'aiment, mais qui n'arrivent plus à communiquer, leurs échanges se réduisant à des pics et à de nombreuses engueulades. Face à ce problème, ils décident de se poser un challenge. À la manière de deux pays en conflit, ils érigent une liste de règles à suivre qu'ils appellent la charte universelle des droits du couple. Il est difficile dans le paysage de la comédie française de représenter le couple hétéronormé qui bat de l'aile sans tomber dans les clichés sexistes qu'on connaît. La mère de famille n'en peut plus d'avoir la charge mentale du foyer et confie ses gosses à son abruti de mari qui va tout faire à l'envers. Un mari trompe sa femme avant de se rendre compte qu'il l'aime vraiment et fera tout pour la récupérer. Ou encore un autre décrétera que si le couple va mal, c'est que l'amour avec une femme ne dure en réalité que 3 ans. Bref, des tas de mecs qui se remettent très rarement en question et des femmes patientes et conciliantes bizarrement touchées par leur maladresse sexiste. De purs scénarios au regard masculin décadent qui ne reflètent malheureusement que très peu les véritables rouages du couple hétéro contemporain. J'ai donc été étonnée de voir que dans le processus de paix, les rôles genrés au sein du couple n'existent quasiment pas, je dirais même que c'est pas le sujet des conflits et par conséquent le sujet de la comédie. La comédie n'éclot donc pas dans des situations fantasmées où les personnages sont cantonnés dans leur rôle genré, mais il éclot par le verbe, la perte de communication et l'authenticité des phrases qui se chevauchent. Ilan Klipper est un réalisateur qui scrute la folie et les névroses du genre humain avec un regard à la fois tendre et puissant, souligné par une photographie lumineuse et laiteuse signée Lazare Pedron qui donne au film un caractère tout à fait fantaisiste. À la manière du cinéma de Valérie Donzelli, la douce folie présentée se cale au rythme des petits drames existentiels de la vie. Le réalisme et la drôlerie du dialogue est lui emprunté à la vie quotidienne, à l'aide de nombreuses interviews et observations que le réalisateur et sa co-scénariste Camille Chamou ont effectuées pour que le scénario colle le plus possible à ce que pourrait vivre un couple hétéro citadin lambda. La patte de la scénariste est d'ailleurs très présente puisqu'on a vraiment un personnage féminin qui est très présent dans l'histoire et qui s'exprime énormément. Et on y reconnaît déjà les sujets qui obsèdent Camille Chamou, le couple et les conflits qui les accompagnent. Des idées qu'elle a d'ailleurs déjà explorées dans 2 autres collaborations, dans Les Gazelles et dans Premières Vacances. Ici, la pensée du couple semble arriver à maturation. Ce qui lui a permis d'effectuer des envolées féministes dans le cadre du travail de Marie, le personnage principal, qui sonne juste et révèle parfaitement ce sur quoi les femmes sont véritablement vénères. Mais je pense que Camille Chamou en parlera mieux que moi, donc c'est parti pour l'interview.
Alors, première chose, j'ai travaillé, j'ai connu Ilan Klipper sur son long métrage Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, qui était sa première fiction, son premier long métrage de fiction. Et j'ai trouvé son univers extrêmement singulier. Et ce qui m'intéresse dans mon métier, ce sont les artistes singuliers qui ont un regard très précis et qui me semblent nouveau ou étrange, ou en tout cas pas forcément le mien, sur le monde, en l'occurrence la folie. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé, Ilan, sur les névroses, les pathologies et une forme de folie digérée, mais une folie qui est en chacun de nous et à plus ou moins haut niveau. Il a fait après un documentaire auquel j'ai participé, qui est un docu-fiction qui s'appelle Funambule, sur des gens justement qui sont un peu limitrophes entre la raison et la folie, mais qui sont dans la vie normale. J'ai toujours aimé son travail et son regard sur les choses. J'aime aussi la façon dont il filme, il cadre, la façon assez originale dont il travaille la lumière. Et j'avais extrêmement envie de continuer notre aventure commune, et lui aussi. Donc nous avons réfléchi longtemps et on ne trouvait pas d'histoire à faire ensemble de manière extra. On a deux univers assez très différents même à la base. En revanche, un jour, je lui ai parlé de mon idée complètement embryonnaire, vraiment, de faire une comédie sur un couple qui s'aime mais qui n'arrive pas à faire la paix. Et je lui ai dit, je voudrais faire une comédie qui s'appelle La Paix, sur un couple qui essaye de bien se parler pendant 15 jours, sinon ils se séparent. Ouais. Et il m'a dit, ah, j'adore ce thème, et ça me parle carrément. Moi, je suis dans un couple hyper explosif, très conflictuel, même s'il y a beaucoup d'amour et tout. Et je lui ai dit, ah, bah, moi, ça n'a rien à voir avec ma vie, faux. Évidemment, c'est complètement ouais. mon histoire, mais c'est aussi beaucoup de couples que j'observe autour de moi. Et on a beaucoup parlé de ça et on a fini par tomber d'accord que l'idée de... Enfin, si un couple arrive à faire la paix, le monde pourrait faire la paix. C'est-à-dire qu'au fond, deux personnes, c'est l'image de deux peuples, c'est l'image de à quel point c'est difficile de vivre avec l'autre. C'est la microcellule qui est la preuve de ça. Est-ce qu'on arrive à vivre ensemble, à trouver des terrains d'entente, même quand on s'aime et qu'on est assez similaire, c'est très difficile de vivre ensemble. Et donc, c'est de là-dessus qu'on est parti sur la thématique presque de géopolitique du couple, qui est le processus de paix.
L'intime est politique, voilà. Comme on dit. Et du coup, donc, j'ai lu que vous avez construit, comme vous l'avez dit, votre scénario à travers deux méthodes, déjà en parlant de votre vécu à vous et à Ilan, et des situations de votre vie qui vous ont inspiré, mais également à partir d'interviews. C'est important pour vous que le film sonne le plus juste et réaliste possible à cet égard-là, enfin, en procédant
Ilan,
comme
il...
ça.
Ouais. Ilan, il adore le verbe, donc ouais. ça c'est notre point commun pour le coup, parce D'accord. que moi je ne suis pas du tout quelqu'un de l'image, c'est pour ça que je ne réalise pas, mais je suis, je vis dans le mot quoi, dans le verbe, c'est mon décryptage du monde quoi, j'ai vraiment l'impression d'être Hélène Keller s'il n'y a pas les mots, j'ai besoin vraiment du décryptage d'un champ lexical hyper précis, etc. pour essayer de maîtriser le monde. Et Ilan, il a la passion du mot aussi, sauf qu'à celle-là, il juxtapose la passion de l'image. Et en fait, nous aimons tous les deux travailler à partir de la façon dont les gens parlent. Nous n'aimons pas les dialogues qui sonnent écrits. Et pourtant, nous aimons les longs monologues, les longues scènes, les scènes qui s'étendent dans une véracité de quand le verbe n'arrive jamais à approcher la vérité, ou les scènes d'incommunicabilité. Il y en a beaucoup dans le film, où le couple carrément se parle l'un sur l'autre, même parfois. Mais c'est des scènes de la vie, oui. mais qu'on voit rarement, souvent peu exploitées au cinéma en tout cas. Où tout est comme une partition éclaircie. Et nous, on aime les partitions confuses. Donc on a essayé de travailler de cette manière-là. D'abord en s'interrogeant, en effet, l'un et l'autre, et en enregistrant nos conversations.
D'accord.
Et puis en enregistrant presque de manière au mot près les gens à qui qu'on faisait parler, donc Mathieu Bisson qui joue dans le film et qui est celui qui nous a parlé de la charte qu'il avait mise en place parce qu'il était coparent avec une femme qu'il avait rencontrée par un site, c'est une histoire totalement vraie, presque écrite au mot près, que Ilan prenait des notes de tout ce que disait Mathieu et on les a retranscrites presque au mot près. En revanche, ça s'écrit. C'est-à-dire qu'après, ça passe par une scène écrite. Ça n'est pas du tout de l'impro.
Oui, oui.
Et nous, on dit les mots au mot près avec Damien ou Mathieu dans le film. On est au mot près, mais d'un texte qui est la retranscription presque fidèle. Mais peut-être que dans ce presque, il y a l'espace de la fiction.
Oui, voilà. Moi, ça me fait beaucoup penser à Sophie Le Tourneur. Bah,
moi, j'adore. C'est... moi aussi. Vraiment. J'aime énormément ce que fait Sophie. Et c'est la toute première personne, d'ailleurs, que j'avais approchée pour réaliser Les Gazelles. Donc, tu vois, c'est marrant.
Ah, oui.
C'est resté une grande amie. Et, mais Sophie, c'est pas. Justement, elle travaille pour le coup avec une méthode entièrement personnelle. C'est-à-dire que Sophie, pour le coup, et c'est ça qui est beau, c'est une autre forme d'art d'ailleurs. Elle est extrêmement. Elle est presque dans du dispositif.
Totalement.
Et j'adore, moi, ce qu'elle fait.
Moi aussi, j'adore.
Mais là, pour le coup, Ilan et moi, on était plus dans un... Il y a quelque chose, effectivement, qui s'apparente au procédé de Sophie. Mais par contre, Ilan et moi, on travaille en l'un vers l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de mixer nos deux approches et d'en faire une troisième approche, d'inventer quelque chose qui est entre nous deux.
Ouais. D'ailleurs, Sophie Le Tourneur, elle a sorti il n'y a pas longtemps un film aussi sur le couple.
Ouais,
donc les grands esprits se rencontrent,
ouais,
finalement.
Bah non, mais bien sûr.
Extrêmement drôle, extrêmement
ouais, il est
drôle.
Super
et pareil, rien n'est de l'impro, tout est écrit. Mais c'est juste un travail en amont qui est
exactement
fascinant, je trouve. Donc revenons un peu sur le film. Le film porte, du coup, comme vous l'avez dit, un discours un peu géopolitique, révolutionnaire, mais aussi féministe à certains instants. Et ce que j'ai particulièrement apprécié et trouvé intéressant, c'est que il y a une misogynie, mais elle n'existe pas tant au sein du couple, parce que on pourrait facilement aller dedans ça. Mais comme vous êtes partie sur quelque chose de très réaliste, je pense que c'était pas le but. Par contre, la misogynie existe au sein du travail, là où travaille Marie. Marie, donc, elle travaille dans une antenne radio. Elle a une émission sur la sexualité féminine qui est pas très bien considérée, un peu rabaissée, etc. Marie fait face au paternalisme de son patron et tout ça, etc. Est-ce que vous êtes aussi inspirée de situations de votre vie ou de personnes que vous connaissez pour écrire ces scènes-là qui, pour moi, ont été très marquantes quand même ?
Ah bah, ça me fait plaisir, merci. Oui, en effet, je n'ai pas du tout traité le féminisme ou la misogynie, enfin ce dans lequel on se positionne au sein du couple, parce que ça n'est pas une expérience que j'ai. Moi, j'ai eu deux longues histoires avec des hommes dans ma vie, dont celui avec qui je suis aujourd'hui, et je n'ai connu que des hommes à qui néanmoins il faut apprendre plein de trucs parce qu'ils ne le connaissent pas ou ne le savent pas, mais qui ont un tempérament fondamentalement féministe. Ça n'empêche pas qu'il y a au sein du couple des choses dont l'homme ne se rend pas compte, sincèrement, qui sont même, alors qu'il va vers un féminisme naturel, il y a des choses dont il ne se rend pas compte. Et donc même dans l'intimité, je pense qu'il est bon de toujours parler, resituer l'autre pour lui faire entendre qu'est-ce que c'est toute petite misogynie digérée dont il ne se rend même pas compte. Mais ça n'est pas un sujet fondamental dans le couple. En revanche, dans mon rapport au travail, de manière latente, j'ai très souvent été confrontée à une forme de tout petit mépris, de tout petit paternalisme, mais parfois très gros. Et j'ai travaillé en radio. J'ai travaillé en radio avec Michel Drucker, qui lui est formidable et est un monsieur maintenant très âgé, mais qui a plutôt le même respect pour les femmes et les hommes. Et voilà. Mais en revanche, dans la radio dans laquelle nous travaillons, à l'époque, il y avait un patron qui me fait énormément penser au patron et qui avait tendance à considérer toute jeune femme comme jolie énergie, énergie frisant l'hystérie, mais moi je te prends pour ce que tu es, à savoir un petit papillon virevoltant. Oui. Et en fait une impossibilité de considérer derrière une jeune femme le même cerveau que lui.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti extrêmement puissamment et de nombreuses fois dans ma carrière. Et encore aujourd'hui, qu'il peut m'arriver de traverser. Et c'est ça qui empêche, au fond, une égalité de salaire et de totale comportementale. C'est qu'il y a encore, de moins en moins, vraiment, mais il y a encore, chez beaucoup d'hommes, notamment un peu plus âgés, cette notion que derrière une jeune femme ou une femme, il n'y a pas tout à fait le même rapport à la responsabilité, au pouvoir, voir, à la profondeur de pensée. Vraiment, c'est... Donc ça, c'est quelque chose que j'ai voulu traiter de manière... Voilà, et parler effectivement d'une émission qui parle du plaisir féminin ou du rapport féminin au monde est forcément une sous-émission.
Voilà. Alors que c'est dit dans le film que c'est l'émission qui rapporte le plus voilà. d'audience. Et donc on sent en fait la contradiction de cet homme, enfin de ses propres, comment dire, de préjugés en fait. Et je trouve qu'il est vachement moqué. Et c'est bien d'avoir ce genre de point de vue-là parce qu'on
oui,
s'en rend pas
compte. Oui, et ce qui m'insupportait dans les façons dont j'ai pu le traverser dans ma vie personnelle et ce que j'ai pu observer autour de moi-même, c'est que même à la tête de ces émissions-là, ou au-dessus, le directeur était un homme qui avait une relative déconsidération de ces travaux-là, ces espaces-là de liberté de parole et tout ça. Et donc, j'ai voulu le faire de manière drôlatique. Et en plus, avec Ilan, qui, lui, n'est pas spécialement féministe. C'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, avec qui on peut parler d'à peu près tout, mais qui part de loin. Et moi, j'adore ça, parce que rien que le fait qu'il aille vers moi, et vers, bah, c'est super beau. Et par exemple, il trouvait que le personnage de Marie, comme lui, il écrivait plutôt le personnage de Simon, et moi, plutôt le personnage de Marie. Et après, on se faisait lire, parce qu'on était plus proches, etc. Et on se faisait, et on corrigeait ensemble, et on réfléchissait ensemble. Et lui, il m'a beaucoup dit, et je pense qu'il a servi le film, il a servi le personnage, et il a servi une cause en faisant ça. Il m'a beaucoup dit, elle est trop vénère. Et en même temps, au bout d'un moment, il m'a dit, tu sais quoi, c'est juste qu'il faut en parler du fait de pourquoi elle est vénère comme
oui,
ça.
C'est ça.
Donc, pourquoi elle est dans le fight en permanence, cette fille? Et donc, c'est là qu'est née la scène de la fin du film, où elle s'explique sur pourquoi elle est tout le temps dans le fight. Et où, au fond, Ilan, il m'a dit, mais faut me mettre moi, qui ne comprends pas cette espèce de vénéritude du personnage, le fait qu'elle soit tout le temps dans le fight, il faut le mettre en mots. Il faut que moi, je sois dans le film en train de dire, mais pourquoi t'es tout le temps dans le fight? Pourquoi tu peux pas te calmer deux minutes et tout, et qu'elle réponde, mais attends, moi, si je me calme, je disparais. Et moi, heureusement, je pense que dans les générations qui arrivent, et même toi, pour ta génération, c'est plus le même degré de fight à fournir. Enfin, si, mais en tout cas, on peut être apaisé et s'exprimer. Moi, pour m'exprimer aussi profondément que je le souhaite, j'ai tout le temps dû être dans le fight. Donc, pour moi, c'est naturel, en fait. Et j'aimerais bien être un petit lapin. J'adorerais être un petit chaton calme, quoi. Mais si j'étais un petit chaton calme, on ne me laisserait pas le même temps de parole. Donc, hélas, j'ai dû être une hyène hyper vénère pour qu'on m'écoute. Mais maintenant, je veux bien redevenir un petit chaton. Ça me va. Enfin, je m'en fous. Moi, je n'ai pas la passion du fight, en fait. C'est ça qu'on m'a beaucoup brandi dans la vie. C'est pour ça que je l'ai mis dans le personnage de Marie très fort.
Oui.
C'est qu'on m'a beaucoup brandi, au fond, toi, ce que tu kiffes, c'est te vénère. Mais non.
Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça dans le film. Moi, justement, je la trouvais vachement plus calme dans le couple, celle qui... Enfin,
ouais, c'est ça.
Qui vraiment... Voilà. Non, mais on en discute. Mais pourquoi tu t'énerves? Et qui a envie de s'amuser avec les enfants.
Exactement.
Qui est pleine de joie de vivre.
Ça fait plaisir qu'on voit ça.
Ouais, et pourtant... Par contre, quand elle est dans le cadre du travail, c'est comme si ça ressortait. En fait.
Voilà.
C'est un peu cathartique.
Exactement.
Comme ça.
Oui, non, moi je parlais dans la vie. Moi, c'est un truc où je me dis, bah oui, mais les gens ne se rendent pas compte. Et j'ai voulu essayer d'exprimer ça à travers ce personnage. Ça n'est pas un goût. Les filles énervées, ce n'est pas parce qu'elles aiment s'énerver.
Oui, totalement.
C'est pas ça, en fait. Et c'est marrant parce que, en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es beaucoup exprimé, que t'as dit tout ce que ça m'a frappé sur la promo de Virginie Despentes de Cher Connard. Je l'ai trouvé tellement calme et tellement douce et apaisée et tout. Et je disais à mon mec, justement, tu vois, Virginie Despentes, elle est plus du tout vénère parce qu'en fait, ça y est, elle s'est exprimée suffisamment et elle va continuer. Mais maintenant, elle a une surface d'écoute. Et donc, c'est alors qu'on l'a toujours prise pour une énorme vénère qui voulait juste tabasser des gens.
Ouais.
En fait, non, elle voulait juste qu'on l'écoute. Et moi, je trouve ça... Et je suis hyper reconnaissante à Ilan d'avoir capté ce truc, d'avoir fini par le comprendre parce que vraiment, il ne le comprenait pas à la base, et de l'avoir mis en fiction de manière probante et belle, quoi. Parce que, et en effet, je trouve que c'était c'est toujours intéressant de travailler avec des... Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'alliance des cerveaux et que j'aime bien travailler avec des réals, comme avec Mona dans Les Gazelles, avec des gens qui sont pas forcément dans mon délire, en plus, qui peuvent être assez loin de moi, comme Ilan dans Le Processus de Paix, etc. Mais parce que je trouve que l'alliance des cerveaux fait que tu arrives à une fiction et à une œuvre qui peut toucher des gens et qui, j'espère, peut toucher aussi bien ma mère que une jeune femme de 18 ans, que un mec sexagénaire, bon, qui peut se sentir peut-être un peu agressé par le film par certains endroits, mais encore, comme il y a le rire, l'humour, etc.
Ouais, non, moi, je pense pas.
Voilà. Ouais. Et que c'est un film qui peut toucher tout le monde ou faire rire tout le monde. Ouais. De toute façon, je vais te dire, moi, mon principe de... Comment dire mon principe d'expression, c'est l'humour aussi pour ça. Parce qu'il y a la vénéritude et l'humour qui sont les deux manières d'arriver à ce qu'on te laisse finir ta phrase.
Ouais, c'est pas faux.
C'est pour ça que j'ai emprunté ces vecteurs-là, moi.
Mais c'est bien réussi dans le film, en tout cas. Dernière question. Je voulais parler des autres personnages féminins, dont un que j'adore, qui est joué par Jeanne Balibar, et qui est vraiment à la fois très drôle, mais très vrai aussi, et que je perçois un peu comme un miroir tendu à Marie, ouais. Puisque Jeanne, c'est une quarantenaire qui assume pleinement son célibat, sa sexualité, une liberté que Marie fantasme un peu. Mais aussi la mère de Simon, qui semble aussi libre dans sa vie, défend l'idée que l'exclusivité dans le couple est une invention puritaine importée des États-Unis quand même.
J'adore ça. C'est Ariane Ascaride qui a écrit ce passage. Hein.
Ah ouais ?
Elle a adoré le personnage et elle a dit « Est-ce que je peux rajouter ?» Une chose que j'ai très envie de dire, ouais. Parce que moi je la comprends tellement, j'ai envie de la défendre cette femme, même si elle est dure avec son fils, horrible avec ses petits-enfants, mais en fait elle a conquis des libertés et en fait elle comprend pas qu'on remette tout dans des boîtes. J'adore cette expression qu'elle a, et ça c'est Ariane, et Ilan a dit écris ton monologue, écris-le.
Ah, c'est
et
vrai.
C'est elle qui a et retravaillé avec Ilan ce texte sur le puritanisme américain, sur le fait de remettre les choses dans des boîtes et sur passer toute sa vie avec quelqu'un, c'est une névrose.
Totalement. Mais c'était important pour vous d'avoir cette diversité de points de vue sur l'amour et la sexualité et que cette parole surtout soit portée par des femmes.
Ouais. C'était des femmes de toute génération.
Et de toute génération qui n'ont pas toutes les mêmes points de vue,
non.
Qui sont toutes féministes mais de différentes manières aussi.
Exactement. Parce qu'il n'y a pas une façon. En fait, être féministe, c'est juste vouloir l'égalité. Donc, être féministe, c'est comme... je veux dire, on a suffisamment parlé de convergence des luttes ces dernières années pour savoir ce que ça veut dire, mais c'est juste de porter de souhaiter un monde où il y a une équité, une égalité dans les rapports. Et c'est impossible de continuer à évoluer tranquillement dans un monde où on ne sait pas pourquoi 50% des gens sont moins bien payés ou moins écoutés. Et donc... Tout doit être féministe, mais tout doit être... je veux dire, c'est juste une pensée normale du monde, en réalité. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça ne doit pas correspondre à un type de femme ou un type de gens. Souvent un peu caricaturé. Surtout maintenant, il y a une forme de... On aime bien traduire le féminisme d'aujourd'hui dans une espèce de figure vintenaire, un peu cliché et tout ça. En fait, il y a mille manières d'être féministe, mille manières de transpirer, de transcrire dans sa vie une conquête des libertés. C'est pour ça que j'adore que finalement... Et puis tous les personnages sont agaçants par certains côtés et ultra touchants par d'autres, j'espère. Ariane comme Marie, comme cette femme qui vient parler de son bouquin à la radio.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est plein de manières différentes. Et comme Jeanne Balibar, enfin son personnage...
Ouais, j'adore.
Ouais, moi aussi j'adore parce que je trouve que cette façon de dire mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, moi je veux dire je m'inscris sur Tinder pouille et...
Oui voilà, et en même temps elle peut aussi être un peu border, voilà, de vouloir avoir des relations avec le jeune de la boîte.
Ouais, c'est ça.
Ça pose des questions, ça remet un peu le...
C'est pas manichéen ou c'est pas genre cette telle attitude, c'est bien d'être comme ça. C'est toujours, c'est border de chercher l'épanouissement, de chercher le bonheur à tous les âges et par tous les moyens. C'est border, effectivement, mais en fait, c'est une recherche qui est toujours limitrophe, qui est toujours. Mais c'est vrai que moi, j'adore ces personnages qui sont pas carrés, qui sont pas sages.
Ouais. C'est ça que j'ai trouvé trop bien dans le film, c'est que en fait, le fait qu'ils soient un peu agaçants ou pas, ou qu'ils ont des défauts, ça déjà, ça relève l'humour, mais ça permet de se projeter aussi. De, comme je le disais aussi, encore pour nous, un miroir tendu aussi.
Ouais.
Sur nous, comment est-ce qu'on est vis-à-vis des uns et des autres et tout. Que ça passe par le couple, je trouve que c'est bien parce que ça parle à beaucoup de gens. Et qu'en plus, il y a ce parallèle qui est fait avec la révolution et les grèves et les manifestations jusqu'au point, et ce que je trouve très bien, c'est que le point culminant, c'est le monologue de Marie à la fin, quoi.
Ouais,
qui, du coup, je trouve, défonce tout et c'est trop bien. Enfin, c'est un peu cathartique, je trouve, comme moment.
Ah, bah ça me fait plaisir parce que c'est ma foi, la seule fois que j'ai, c'est la foi en la catharsis. Vraiment, si la fiction peut nous aider à nous défouler et rentrer chez nous, c'est un truc que je disais dans mon spectacle et qui est pour moi hyper important. C'est le principe du théâtre grec antique.
Tout à fait.
C'est vraiment... tu vois des gens tuer leur père, coucher avec leur mère et bouffer leur gosse, et tu rentres chez toi et tu prépares une bonne carbo, tiens, avant de les manger. Et voilà, au lieu de les manger, et après tu t'entends bien avec la voisine et tu dis, voilà, et que la rage, elle est expulsée par la fiction et elle t'aide à genre grandir dans une pensée, mais pas dans l'énervement. Voilà. C'est le pouvoir de la fiction, c'est vraiment la catharsis.
Tout à fait. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions de Cinéra Meuf.
Merci Cinéra Meuf, à bientôt.
À bientôt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.